Voici le podcast Samouraï MMA.
Aujourd'hui, mon invité, un des meilleurs coachs au Canada, est bientôt à la description des galas Samouraï à RDS, Lévi Labrie. Salut Lévi, comment ça va?
Ça va super bien, Daniel. Toi, comment ça va?
Ça va vraiment bien. Puis merci beaucoup d'être sur notre podcast en route vers notre premier gala.
Merci. Merci à toi de me recevoir ce matin. Je suis en quarantaine en ce moment, fait que le timing était idéal.
Excellent. Hey Lévi, parle-moi quand tu étais jeune, là, parce qu'à chaque fois qu'on te regarde, toi, t'as l'air tellement calme, tout ça. Quel genre de petit bonhomme que tu étais à l'école? T'étais-tu calme autant que ta version adulte?
OK. C'est une bonne question. Regarde, si on va très jeune dans ma vie, disons, exemple, aller jusqu'à 10-12 ans, j'étais un gars qui passait beaucoup de temps en famille. Je passais beaucoup de temps avec mes sœurs, avec mon frère, avec mes parents. Sinon, j'étais un gars, je dirais, solitaire en général. J'étais super heureux. Les besoins que j'avais étaient comblés. J'étais super bien dans ma bulle. J'étais un petit kid rêveur, on peut dire. Je jouais pas vraiment à des jeux vidéo. Je faisais pas vraiment partie d'aucune équipe sportive là, qui était de hockey. Ça a commencé un petit peu plus tard, ça. Là.
OK. Puis toi, t'étais dans quel coin quand t'étais petit?
Moi, j'ai habité à Rivière-du-Loup jusqu'à 17-18 ans. J'ai fait mon école secondaire là. C'est là que j'ai commencé à faire partie de d'équipes sportives. Là. C'est là que j'ai commencé à jouer au handball. J'ai commencé à jouer au basketball aussi. C'est là que j'ai développé une certaine passion pour le sport. Là.
Puis comment ça s'est fait, ton initiation à MMA, finalement?
L'initiation à MMA, suite à ma carrière de basketballer, j'étais un joueur très très ordinaire. J'avais pas d'excellentes notes à l'école, donc le programme dans lequel je faisais partie, qui était un sport étude pour le basket, à partir du troisième secondaire, j'avais plus le droit de faire partie de l'équipe élite, on peut dire. Et quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films d'arts martiaux. Là, je veux dire, à partir de 5-6 ans, je regardais les films d'arts martiaux avec Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. J'ai développé une certaine passion très tôt envers les arts martiaux, puis une belle vision aussi. Où c'est que j'habitais à Rivière-du-Loup, à chaque année, il y avait un spectacle qui est organisé par Maître Fernand Morneau.
Ben oui,
il appelle ça la nuit des arts martiaux. Ça fait environ une trentaine d'années là à peu près. Là. Fait que, tu sais, c'est des gens qui ont vraiment ils ont travaillé pour faire en sorte que le sport se développe un petit peu. Puis à chaque année, il faisait son spectacle. Puis Fernand Morneau, lui, c'était un showman aussi. Fait qu'il faisait du cassage. Il cassait des briques de ciment avec ses mains. Puis c'était il mettait une musique en arrière de ça, tu sais, ça faisait un spectacle, mais aussi on pouvait voir la force de l'homme. Puis à travers ces soirées-là, ben regarde, il y avait des combats de full contact. C'était pratiquement tout était permis là. On parlait de coude à la tête, on parlait de genoux, on parlait de coups de pied au visage, coups de pied dans les jambes. Et puis j'avais trouvé ça très réel. J'avais essayé les arts martiaux avant. Un petit peu plus traditionnel, karaté, judo, puis c'était pas venu me chercher autant que ces combats-là de full contact. Et puis, suite à des circonstances dans la vie, ben il y avait un des combattants que j'avais suivi, je veux dire, à chaque année qu'il faisait un show, j'y allais, puis c'était souvent les mêmes qui gagnaient, puis j'étais devenu un petit peu admirateur d'un des combattants. Puis, suite à des circonstances, ben je me suis battu dans la rue pour me défendre, et puis ce monsieur-là, il a passé, puis on a parlé, puis il m'a dit qu'il y avait une école de boxe chinoise qui était pas très loin du centre-ville. Puis je me suis présenté à son école, j'ai essayé, puis c'était un petit local, c'était fait en plywood, le plancher il est en bois, ça avait rien à comparer au gymnase de boxe qu'on voit en ce moment. Là. Puis à partir de là, regarde, la première fois que je suis rentré là, j'ai su que j'allais être là pour un bon moment de ma vie. Là,
t'as-tu continué à t'entraîner à cet endroit-là longtemps ou t'es déménagé dans la région de Montréal pour approfondir ton entraînement?
Je me suis entraîné à Rivière-du-Loup avec Simon Fournier et Fernand Morneau aussi pendant au moins, je te dirais, une période de un gros 2 ans, peut-être 3 ans. Et puis j'ai fait, on faisait à l'époque, on faisait partie de l'équipe canadienne de boxe chinoise, donc c'était facile pour nous de voyager à l'extérieur. Je suis allé en Californie, je suis allé à Baltimore, j'ai fait plusieurs voyages où est-ce que c'est des tournois internationaux. C'était pas quelque chose qu'on pouvait faire vraiment à Rivière-du-Loup, ni à Québec, ni à Montréal. Donc, il fallait absolument voyager à l'extérieur. Puis on faisait face à, il y avait une cinquantaine de pays inscrits aux compétitions. C'était des tournois, c'était des round robin. C'était par des rate class, bien sûr. Tant que tu gagnais, tu te battais, tu continuais d'avancer dans le tournoi. Fait qu'en une fin de semaine, on pouvait facilement faire 4-5 combats. Là,
puis, ah oui.
On était vraiment bien préparés. Fait que c'était parfait pour l'expérience. Et moi, je fais des compétitions, j'avais 17 ans. Moi, je voulais compétitionner avec les hommes. Je voulais pas compétitionner avec les juniors. Fait que là, fallait que mes parents signent une décharge pour que je puisse me faire frapper dessus par des hommes, finalement. Puis c'est après ces compétitions-là que j'ai décidé de déménager vers Montréal.
Okay.
Quand j'avais 19-20 okay. ans.
Puis après ça, t'es allé t'inscrire dans une école de plus spécialisée en MMA?
Ouais, exactement. Ben lorsque j'étais jeune, encore une fois, j'étais solitaire, je regardais la télé, puis je voyais les David Loiseau de ce monde qui est en train de développer dans UCC, Donald Wimet, Ivan Menjivar, puis je les ai vus très tôt dans leur carrière. Puis le point en commun que ces gens-là avaient, ben c'était le TriStar Gym, qui est un gym très réputé à Montréal. Puis c'était un no-brainer pour moi de si je faisais le voyage à Montréal pour m'établir à Montréal, je voulais faire partie de cette équipe-là. Puis c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à Montréal, je suis parti de Rivière-du-Loup directement sur le plateau Mont-Royal. Puis je me rendais au TriStar plusieurs fois par jour. Je m'étais ramassé de l'argent. J'ai commencé à travailler très tôt dans la vie. Okay. J'étais capable de payer mon abonnement, puis de payer mon loyer, puis tout ça, là. Je me suis entraîné au TriStar longtemps, puis j'ai bien vu que les armes que je possédais n'étaient pas assez. Ah. Si je voulais continuer dans le sport, il fallait que j'apprenne autre chose.
OK.
Puis je pense que le TriStar était la partie, l'endroit parfait pour continuer mon apprentissage.
Souvent, quand on pense à toi, Lévi, on pense souvent à toi comme coach, mais tu as été combattant, puis tu as combattu quand même un grand nom là, qui se bat dans l'UFC, toi.
Ouais, je me suis. J'ai fait 3 combats au niveau professionnel. J'ai affronté des combattants compétents très tôt. J'ai affronté mon deuxième combat, j'affrontais Pete Martin, un gars qui s'est rendu dans Bellator.
Ouais.
Il a fait quelques combats. Si je me trompe pas, il y a aussi World Series Fighting qui a combattu.
Ouais.
Il s'était présenté à Montréal. J'avais remporté le combat au deuxième round. Une couple de mois après, je me suis fait matcher contre un gars qu'on m'avait dit que c'était un gars de boxe thaïlandaise. À l'époque, YouTube était pas aussi, aussi bien fourni qu'il est en ce moment. Puis ce gars de Muay Thai là, mais c'était Kevin Lee.
Ben oui, le lutteur par excellence.
C'était pas un gars de kickboxing, mettons. Fait que, regarde, il y avait plusieurs combats de lutte olympique. Puis j'étais vraiment pas. Je faisais de la lutte en entraînement, oui.
Ouais.
Mais pas assez pour battre un gars avec les compétences que Kevin Lee avait à l'époque. La première, après une couple de minutes, il a pogné. Il a shooté un single leg sur moi, puis j'avais rarement senti une pression comme ça. Bref, j'ai perdu une décision contre Kevin Lee. Et puis, c'était mon dernier combat à vie. C'était le seul combat que je perdais, d'ailleurs. Mais, je m'étais toujours dit que le jour où tu vas perdre un combat, mais tu vas demeurer dans les arts martiaux, oui. Mais tu vas peut-être pivoter vers ce qu'il... Plus le coaching, là, plus...
Mais sans indiscrétion, pourquoi tu as décidé tout de suite de prendre ta retraite après ce combat-là? C'est-tu parce que tu pensais que tu avais atteint ton full potentiel ou c'est...
J'avais peut-être un 29 ans à l'époque, je te dirais.
Mm-hmm.
J'avais eu ma première fille. Ma fille qui a 15 ans aujourd'hui. Je m'étais acheté une maison, une vie de famille, quoi. Et puis, je crois pas que ce soit un sport qu'on peut faire à 50%. C'est un sport qu'il faut se dédier à 100%. À la fin de la semaine, 6 mois, faut que je travaille 40 heures par semaine pour payer mon hypothèque. Il faut que je fasse vivre mes enfants. Il faut que mes enfants se développent de façon optimale. Ben, regarde, c'était la décision que j'ai prise de mettre ça de côté. J'ai pas le sport est encore dans ma vie à 100% en tant que coaching. Je peux voir le thrill de la victoire avec mes athlètes finalement, sans nécessairement courir le risque de blesser puis de pas être capable de travailler pendant 2 semaines après, tu sais.
Ouais, je comprends. Mais écoute, j'en reviens à, maintenant, t'es un coach réputé. Est-ce que le fait que t'aies été un fighter t'aide beaucoup dans le métier de coaching ou vu que t'as déjà été dans l'octogone toi-même, alors tu peux peut-être diriger tes athlètes un peu différemment à cause de cet aspect-là que tu as comme avantage?
C'est sûr que le fait que j'aille... J'ai côtoyé plusieurs excellents coachs dans ma carrière. J'ai côtoyé plusieurs excellents combattants dans ma carrière. J'ai fait partie de plusieurs camps d'entraînement de combattants élites. Le fait que j'ai combattu une trentaine de fois, c'est sûr et certain que ça m'a donné un edge. Ça m'a démontré le sérieux de la chose. Au niveau élite, les combattants qui s'entraînent, ils font des choses extraordinaires. C'est pas juste des choses ordinaires. C'est des gens qui sont capables de bâtir un bon game plan, qui sont capables de s'entourer des bonnes personnes. Tout ce qui est behind the scene, qu'est-ce qu'on voit un petit peu moins à la télé, ce qu'on voit, c'est le côté spectacle, c'est le côté violent de la chose. Mais c'est tout le behind the scene que je crois que le fait que j'ai été combattant m'aide beaucoup en tant que coaching, en tant que coach maintenant.
Ouais, l'aspect mental, là.
L'aspect mental, l'aspect tactique, l'aspect technique, l'aspect physique, psychologique, c'est une sphère qui se doit d'être intelligemment bien remplie. Et puis, il faut pas tourner les coins ronds, mettons.
Ouais, exactement, parce que je pense que les athlètes d'aujourd'hui, comparativement peut-être un petit peu avant dans le premier segment, les athlètes aujourd'hui, c'est des athlètes ultra complet, des athlètes qui se dédient vraiment à leur cause, là. Des passionnés d'MMA, parce que c'est sûr qu'en MMA, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire, à moins d'être arrivé dans le UFC. Mais ces gens-là, là, sont dédiés à une cause, puis les coachs aussi. C'est une vraie passion. Je trouve ça très admirable.
C'est le plus beau sport du monde. C'est pas juste un sport, c'est une manière de vie aussi. C'est la façon dont tu perçois la vie, dont tu perçois les épreuves en tant qu'artiste martial.
Ouais.
Tu regardes, c'est une école de vie, puis je pense que c'est la meilleure école de vie.
Alors, il faut revenir absolument. En fin de semaine, tu as vécu un grand moment. Ton poulain, Johan Lennes, qui gagne le championnat. Alors, il faut que tu nous parles de ce combat-là. Parle-nous des insides, parle-nous de Johan. Parle-nous de tout, on veut tout savoir.
Johan, c'est un performeur. C'est un performeur qui va se rendre dans l'élite. C'est un gars qui est capable de trouver beaucoup de paix dans l'inconfort. C'est là qu'il est capable de se relever quand ça compte. Il adore être sous les lumières. Il apprécie le moment à 100%. Si on retourne une semaine avant le combat, pendant la dernière session de sparring à Johan, dernier round, bien sûr, c'est toujours au dernier round, on faisait des 5 rounds pour ce camp d'entraînement-là. Et puis, suite à une technique, et puis une technique de drop level, il est allé shooter pour un double leg. Son adversaire, sans le vouloir, a causé une coupure. Et puis, une bonne coupure qui a nécessité 5 points de suture. Là, on parle du vendredi, à peu près à 1h l'après-midi. On est à 8 jours du combat, un combat important. On s'en va affronter un gars qui s'est jamais fait stopper, qui s'est jamais fait arrêter. Un dur de dur. Et puis, regarde, on a réagi très rapidement. Et puis, Johan est bien entouré. Et puis, il a fait un coup de téléphone. Et puis, il s'est fait coudre la coupure. Et puis à partir de ce moment-là, ben c'était c'est repos. On se repose, on est à une semaine du combat. Et puis, on a une décision à prendre si on va se battre ou non avec la coupure. Il y a tous les tests de régie aussi, qui faut être certain que la régie, le docteur qui fait son examen, il faut qu'il donne, faut absolument qu'il donne le go pour que Johan aille, aille se battre. Nous, ce qu'on pouvait contrôler, c'est le fait que si la coupure rouvre, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on continue de se battre parce que il fallait être en paix absolument avec le fait que si la coupure rouvre, il fallait continuer de se battre quand même contre un gars qui s'était jamais fait stopper dans le passé. Et puis, regarde, le combat commence, il y a des belles échanges d'un côté comme de l'autre. Il y a un petit coup qui passe par-dessus l'épaule de Johan, ça touche la coupure et puis ça rouvre. Encore une fois, Johan il était sous les lumières, mais ça l'a pas affecté, il a continué de se battre, il s'est adapté. Entre le premier round puis le deuxième round, encore une fois, il y avait beaucoup de chaos autour de lui. Il y avait moi qui lui parlais, qui essayais de le calmer. J'étais par-dessus son épaule. Il y avait le cutman qui travaillait à la côte. Il y avait le docteur qui était derrière. Il y avait l'arbitre qui regardait la coupure.
Avez-vous eu peur qu'il stoppe le combat dans le coin?
On a eu peur, absolument. Je veux dire, c'était pas... c'était le lieu de la coupure qui était vraiment tricky aussi. Tu sais, c'était pas... c'était pas sur le crâne, là. C'était pas sur le toupette, c'était directement à l'arcade sourcilière. Et puis, encore une fois, Johan a compris le message. Il a compris le message que c'était le deuxième round était là et qu'il fallait qu'il augmente le pace, qu'il fallait qu'il essaie de terminer le combat, qu'il fallait qu'il essaie de blesser son adversaire. Puis c'est exactement qu'est-ce qu'il a fait. Je pense qu'à la 2-3 minutes du deuxième round, suite à un barrage de coups de Johan, ben, il a causé l'arrêt de l'arbitre de son adversaire. C'est là qu'il est devenu champion. C'était un très beau moment, surtout considérant le chemin qu'on avait parcouru pour arriver là. C'était pas facile. Se battre en quarantaine non plus. Se battre pendant la pandémie, c'est des tests COVID chaque jour que tu te croises les doigts qu'ils soient négatifs. Parce que si t'en as un qui est positif, ben, regarde, il n'y a pas de combat. Puis ça va être difficile de rentrer au pays. Fait que c'était une grosse victoire. On a passé du bon temps à Philadelphie. Là. C'était incroyable. C'était une belle ville pour nous autres. À chaque fois qu'on est allé là-bas, on a affronté un Américain, puis on a toujours gagné.
Wow! Puis là, est-ce que vous avez des nouvelles pour le prochain combat de Johan?
Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est faire récupérer la blessure, c'est faire récupérer la coupure.
OK.
Après avoir parlé à certains professionnels, Une coupure comme celle-là récupère environ 1% par jour.
Okay.
Donc, si on veut se rendre à 100%, ben, ça représente 100 jours. Sans réel contact. On peut driller, c'est correct. On peut faire des transitions, oui. Mais subir un impact, ça risquerait de rouvrir. On veut pas que ça le suive pour toute sa carrière. On veut pas que ça rouvre dans 3 combats. On veut que ça revienne à 100%. Et puis, ça nous emmènerait peut-être au mois d'octobre, mi-septembre, octobre, où c'est qu'on puisse entrer en camp d'entraînement sérieux avec des contacts, avec des full contacts, avec des vrais coups de poing, puis des vrais double legs. Donc l'idéal, ça serait octobre, novembre. Je pense qu'on peut penser à son prochain combat, qui va sans doute être dans une grosse ligue.
Non, mais ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que Johan, un peu comme tous les amateurs, on l'a connu avec TKO et je trouve que au-delà de ses qualités athlétiques, c'est un âme de combattant là, vraiment là. Moi, il me donne l'impression que c'est une personne qui veut toujours s'améliorer, très humble de l'extérieur aussi. Et wow.
En plus de toutes ces qualités-là que tu viens de dire, c'est un performeur. C'est pas un gars qui choke.
Ouais.
C'est un gars qui veut toujours apprendre. Il est curieux. Il a l'esprit ouvert. Il a juste 7 combats aussi. Hein?
C'est ça.
Le professionnel, je pense qu'il y en a 7 amateurs aussi. C'est pas énormément d'expérience pour être rendu au niveau ce qui est rendu. Les prochaines années, même s'il pense qu'en ce moment, il travaille fort puis il travaille bien, intelligemment, ben non, il faut qu'on s'adapte encore plus parce que ce qui va arriver devant nous, ben, ça va être des Mustangs aussi, ça va être des gens de l'élite. Donc, il faut absolument faire en sorte qu'on fait partie de l'élite, nous aussi. Ça commence à chaque jour, à chaque micro-décision que tu prends chaque jour. C'est ça qui fait le résultat qui compte à la fin.
Le fait que Yoann, ben, c'est un de tes poulains, ça doit avoir influencé tes autres athlètes qui sont un peu dans ton équipe. Tu peux-tu me parler de tes autres athlètes que tu as et comment ça peut les avoir influencés de leur côté de voir que Yoann s'est rendu quand même dans une organisation qui est majeure et qui s'apprête à aller encore plus haut?
C'est sûr que ça crée un excellent momentum.
Ouais.
Mais en ce moment, on parle de Yoann qui est dans la grosse ligue, ben, qui approche la grosse ligue, qui vient de combattre pour TFFC, un stepping stone pour le UFC qui est remarquable. Je pense qu'ils ont fourni plusieurs combattants UFC. Et puis, c'est sûr, le fait que Yoann soit professionnel, ça encourage tout le monde dans l'équipe. Mais la façon dont je traite Yoann est la même façon dont je vais dealer avec un combattant amateur. Les deux passes doivent passer à travers le même process. La seule chose qui change, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est la cage. C'est pas la même chose. C'est plus gros, c'est tout, mais ça demeure la même game. C'est faire du dommage sans subir du dommage. C'est sûr que c'est le fun de gagner. Je pense que depuis les 20 derniers combats, notre équipe, je pense qu'on a d'excellents chiffres et puis on performe bien. Au-delà de la performance, c'est l'attitude de mes élèves. Mes gens le voient, Yoann, ils voient comment il se présente sur les réseaux sociaux, s'il présente du courage, il présente du respect pour les arts martiaux. C'est un gars qui est toujours bien préparé. C'est pas un gars qui va faire du trash talk. Ça démontre un excellent exemple au niveau psychologique, mais ça donne un gros momentum aussi au niveau performance.
Ouais.
Fait exact. Que, ça aide tous mes élèves. J'en ai amateur. On peut parler de Abdel Rebaï, qui va être un excellent produit. Ça prend juste un stage, ça prend juste une place pour le faire performer. Pierre Thivierge, qui est un combattant professionnel aussi, qui est 1-0, qui va se battre au prochain Samouraï. Pierre, c'est un gars à qui on peut énormément apprendre du cheminement de Pierre aussi. Maxime Soucy aussi, c'est un gars qui a un gros background en arts martiaux. C'est des gars qui ont des bonnes valeurs. Fait ils sont tous un petit peu différents, mais tout le monde a toutes des bonnes valeurs qui peut aider. Maxime peut aider Yoann. Yoann peut aider Pierre. Adèle peut aider un autre. C'est l'unité de tout le monde ensemble qui fait qu'on gagne.
Ben Pierre Thivierge, tu me parles de Pierre Thivierge, je peux te dire que moi, il m'a toujours impressionné. Je l'ai déjà conté cette anecdote-là dans un des podcasts, mais à sa victoire au centre Claude Robillard, je voyais ses parents sur le bord du mur. Là, il était comme à côté sur le mur. Il pouvait pas trop bouger. Et il était très nerveux, ses parents. Et j'ai vu la collade qui se sont fait après le combat. J'ai trouvé que c'était tellement familial. C'était vraiment beau. Ça m'a vraiment impressionné. Tu sais, Pierre, je trouve que c'est une personne, il vient d'avoir un petit bébé, sa vie va changer, tout ça. Je trouve tellement que c'est un combattant idéal pour la génération qui s'en vient aussi. C'est vraiment un bel exemple, c'est quelqu'un de sérieux qui travaille fort. Et c'est en plein le genre d'athlète que nous, pour Samouraï, on voulait vraiment s'identifier. C'est un des premiers noms qui est sorti, c'est Pierre Thivierge.
C'est un vrai. C'est un gars pur qui vient d'une très bonne famille. Et puis, moi, c'est quelque chose que je me répète à chaque fois qu'on est dans un training camp. Moi, ma job, quand un gars que j'aime autant que Pierre, c'est de faire en sorte qu'après son combat, il demeure en santé puis qu'il retourne à la maison top shape.
Ouais.
Pourquoi? Pour que sa famille reste heureux. Le bonheur que ça procure aux proches des combattants, aux proches de mes élèves. Puis Pierre ainsi que sa famille, ils sont là. À chaque fois que Pierre fait un combat, ils sont là. Pendant le training camp, ils sont présents. Le moment que tu me racontes, je me souviens très bien, j'étais après le combat, là, tu sais, ses parents, ils étaient restés debout, puis ils étaient pas capables de s'asseoir, finalement.
Ouais, c'est ça, exact.
Et puis, c'était un beau moment, là.
Ouais, ouais, ouais. Toi, en tant que coach, quels sont tes objectifs qui te restent à atteindre?
L'idéal, où est-ce que je pourrais me dire, OK, Lévi, t'as fait quelque chose de vraiment remarquable, c'est de former un champion par catégorie.
OK.
Un champion à 125, un champion à 135, un champion à 145, un champion à 155. D'une ligue professionnel. Amateur, j'ai bien fait. Il y a plusieurs de mes athlètes qui ont remporté des titres. Maintenant, c'est de le faire au niveau professionnel, dans une ligue professionnelle. Que ce soit l'UFC, tant mieux. Mais dans une ligue professionnelle, ça serait de former un champion par catégorie. Savoir que pendant une soirée, à chaque weight class, de former un champion du monde. Puis ça, c'est quelque chose que qu'on pourrait jamais m'enlever à moi ainsi qu'à tout le monde.
Ben, c'est vraiment un bel objectif. Puis juste en passant, Abdel, il est à quel poids, lui?
Abdel amateur, il faisait 145.
OK.
Pour ses premiers combats, Abdel, on a eu la discussion. Moi, je souhaiterais qu'il fasse ses premiers combats professionnels à 145 livres.
145.
Mais éventuellement, si en s'approchant de l'élite, peut-être baisser à 135 si on est capable de faire une coupe de test puis s'assurer qu'il soit capable de bien rebondir la weight cut.
Okay.
Mais pour le moment, 145 serait idéal. Il y a la puissance nécessaire, même s'il n'y a pas la charpente nécessaire
okay.
pour se battre à 145.
OK. En terminant, il faut que je te parle d'un nouveau défi qui s'en vient pour toi. Tu vas être descripteur pour l'équipe Samouraï à RDS. Comment tu prends ça? C'était quoi ta réaction quand je t'ai appelé la première fois? T'as-tu pensé que j'étais un peu fou de penser à toi tout de suite? Ou c'était quoi ta réaction?
La première fois que tu m'as appelé, j'étais surpris.
OK.
Vraiment surpris. Je me suis... La première chose qui me vient en tête, c'est que je me suis demandé pourquoi moi. Tu sais, j'essaie dans la façon, dans la vie de tous les jours, j'essaie de rester low profile. Je me souviens pas si je t'avais posé la question ou tu lui avais répondu avant que moi je te la pose.
Ouais.
Tu avais dit que tu aimais bien l'énergie que j'amenais, la façon dont je me comportais. Donc à partir de là, ma surprise du début est devenue l'honneur. Tu sais, j'étais honoré. Vous ayez pensé à moi, puis que même sans que j'aille discuter avec toi, que tu puisses savoir que je suis un gars qui vaut la peine, finalement. J'étais super honoré.
Quand je te regardais, en toute honnêteté, ce que je veux te dire, là, c'est que j'ai toujours l'impression que tu te mets toujours à part pour favoriser les autres. Et c'est ça qui m'a toujours impressionné de toi. À chaque fois que je t'ai vu, t'es une personne qui est très humble. Et avec Samouraï, la manière que nous, on veut partir ça, c'est sûr que c'est un domaine qui est pas facile, la MMA. Il faut faire notre place. Et moi, personnellement, c'est sûr que je deal avec des gens que je suis pas habitué de dealer en ce moment, dans la vie de tous les jours. Mais je voulais vraiment emmener une culture peut-être différente, se rapprocher du public et tu sais, des gars comme Pierre Thivierge, tout ça, pourquoi je l'ai nommé en premier? C'est des gens comme ça que je veux m'identifier. Et Pierre Thivierge, son coach, c'était Livy Labry. Et tu sais, c'était un naturel pour moi quand j'ai vu son coach. Puis quand j'ai vu la personne que tu es, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai dit, écoute, ça ferait un team de la mort. Et quand j'ai m'ai battu fort avec RDS pour emmener mes propres commentateurs, puis je suis tellement content. Vraiment, là, vous allez être une équipe de feu. Toi, Benoît Beaudoin. Tu sais, Benoît Beaudoin, ça fait longtemps que je négociais avec RDS et au départ, Benoît Beaudoin, il faisait pas de MMA. Et moi, je leur ai dit, écoute, Benoît, il m'intéresserait vraiment comme commentateur. C'est quelqu'un que je trouve très bon. Et une semaine après que je leur ai dit ça, il a fait le PFL. Et en fin de semaine, je le vois dans l'UFC. Alors, j'étais quand même...
Assis avec M. Georges Saint-Pierre et M. Patrick Côté.
Exactement. Alors, j'étais comme, c'était un petit vlog pour moi dans ma tête. À moi, je me dis, ben, peut-être que je leur ai élevé une cloche. Puis, c'est la même affaire pour Lévi Labrie. Puis, en plus, votre troisième, ça va être Yves Lavigne. Ça va être, écoute, ça va être du gros calibre, là, du gros calibre. Puis, ça va être super spectaculaire pour les gens parce que ce qui va différencier d'un peu de ce qui se faisait avant, ça, c'est une autre des choses que je demandais absolument à RDS, c'est que la description soit faite en direct et non en studio. Alors, pour moi, c'est sûr que ça nous occasionne beaucoup plus de coûts. Mais pour le spectateur, le fait que vous, tu sais, que tu saches pas directement qui a gagné, les réactions à chaud, ça va donner un spectacle, là, vraiment exceptionnel. Puis, j'ai vraiment hâte de t'entendre, puis de te voir aller. Ça va être, tu sais, je suis vraiment très content, Livy, pour toi. Puis j'espère que ça va t'ouvrir aussi d'autres portes.
je crois que le fait que ça soit live, ouais. C'est sûr que ça rajoute un défi, oui, mais ça rajoute un naturel aussi. Ça devient un peu plus organique, je dirais.
Ouais,
et puis, regarde, on va s'assurer de prouver que t'es un bon recruteur.
Ben, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en terminant? Là? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux encore? Là? Une autre grosse victoire de Johan dans l'UFC, peut-être?
Ça, c'est sûr. Ça va arriver suite au travail. Je crois qu'on a la bonne science pour le moment, puis on va juste continuer en s'améliorant. Mais sinon, regarde, c'est les du bonheur, tabarnouche, pour mes enfants, pour ma blonde, les petits bonheurs de la vie, la bonne nourriture, du bon vin, puis du bon temps. Puis regarde, je pense que après une pandémie comme ça, là, on va recommencer à avoir une belle vie. Puis je peux vraiment pas me plaindre, là, je pense, la vie me traite super bien, puis j'essaie de lui rendre de la meilleure façon possible, c'est en respectant tout le monde, puis en m'assurant que mes proches manquent de rien.
Hey, j'ai une petite dernière question qui me vient en tête, là, parce que toi, ta femme est espagnole. Hein?
Exactement.
Est-ce que ça t'arrive d'aller en Espagne avec elle? Avez-vous fait des voyages pour aller en Espagne?
On n'a pas fait de voyage encore, moi et elle, ensemble. Okay. On a fait des voyages à quatre. On est allé au Mexique avec les filles, toute la famille. On est allé à Cuba aussi. Bien sûr que à cause de la pandémie, mais regarde, on avait prévu notre premier voyage ensemble, okay. Ce qui n'est pas arrivé. On avait choisi la Grèce. Par contre, c'est sûr que l'Espagne, ça va être naturel. Elle vient du Salvador. Ses parents, sa famille a encore une maison là-bas. Et puis, elle a encore des cousins là-bas, des tantes. C'est quelque chose qu'on va regarder faire dans les prochaines années. C'était vraiment c'est une de mes passions aussi. Ça serait de voyager puis découvrir différentes cultures. L'Espagne, c'est sûr que ça fait partie de ça aussi. Là.
Écoute, l'Espagne, moi, c'est mon pays préféré pour une simple et bonne raison. C'est là qui est Compostelle. Je peux te dire que quand tu vas aller en Espagne, tu vas voir un peuple ultra familial. C'est très impressionnant comment que les Espagnols sont familiales et qui te font sentir tellement bien dans leur pays. Je te conseille fortement d'aller en Espagne au moins une fois dans ta vie pour voir ça. Là. C'est vraiment impressionnant. Là.
Merci Daniel, je vais prendre ça en considération. J'ai pas de misère à croire que les Espagnols ils veulent te recevoir de la bonne façon.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Je souhaite aussi à tes deux poulains qui vont être sur Samouraï le 15, soit Maxime Soucy et Pierre Thivierge, des bons résultats et très hâte de te voir derrière le micro aussi.
Merci beaucoup, Daniel. Super apprécié. Merci pour tout.
Bye.
Bye-bye.